Bonjour Lorquen Welcor.
Bonjour.
Directrice de recherche au CNRS, votre spécialité c'est l'histoire économique et contemporaine, plus spécialement l'histoire des questions financières et monétaires. Merci d'être avec nous sur Radio Classique ce matin. Guillaume Tabar l'a évoqué dans son éditorial, c'est la question d'actualité avant qu'on évoque ce livre formidable qui nous fait remonter aux racines culturelles et politiques de la dette française et de cet engouement pour l'endettement chez l'État français. Guillaume Tabar évoquait un exécutif sous la menace des agences de notation. Fitch et Moody's rendront vendredi leur verdict, explique Le Parisien ce matin, sur la solidité financière de la France. Comment vous situez les agences de notation dans cette histoire française de la dette?
En fait, c'est une histoire relativement récente qu'on peut situer dans les années 1980-90, donc au moment où la dette devient très internationale, la dette française se place sur les marchés internationaux et donc elle est surveillée par les agences de notation, notamment américaines, hein, qui sont les principales agences de notation. Bon, les faits... Quand on regarde les deux fois où la France a vu sa note dégradée en 2003 et en 2012, n'a pas eu tellement d'effet sur les marchés internationaux. Éventuellement une petite hausse d'intérêt, des taux d'intérêt, mais on a toujours réussi à la placer sans problème. Donc, en fait, le choc, il est interne. C'est un choc psychologique pour l'opinion publique française qui voit là une manière de... Voilà,
Une critique technique étayée qui fait réagir les hommes politiques, et qui aussi, plus ou moins d'ailleurs.
Voilà, absolument, et qui aussi fait peut-être perdre de la crédibilité de la France à l'échelon européen.
Oui, vis-à-vis des prêteurs. Mais enfin bon, ils continuent à prêter à la France, même si certains peuvent s'inquiéter ou s'interroger. Alors depuis 15 jours, la droite, en raison d'une une du point, coup de poing si j'ose dire, a surnommé le président de la République l'homme qui valait 1000 milliards de dettes en raison de l'augmentation de la dette sous le mandat d'Emmanuel Macron. Vous expliquez dans votre livre que longtemps la France a été dans le déni de la dette. Est-ce une période, selon vous, terminée?
J'ai envie de répondre oui et non.
Ah.
D'abord, parce que on a quand même, là, depuis quelques semaines, effectivement, on sent un sursaut dans l'opinion publique, avec une médiatisation très forte du sujet, qui n'est pas juste l'affaire d'une semaine ou deux. On sent que c'est un sujet qui prend beaucoup de l'importance et qui suscite un débat, justement, démocratique. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que le soufflet va retomber? Ça, je ne sais pas. Peut-être. Ça a déjà été le cas dans le passé, où on a eu comme ça des alertes, mais au bout de quelques temps...
Ça se calme.
Donc je ne peux pas répondre vraiment, savoir si c'est le déni continue ou pas. En tout cas, dans l'opinion publique, je pense qu'il y a une prise de conscience. Du côté de la classe politique, c'est peut-être plus mitigé.
Lorquen Welcor, historienne de l'économie, le déni de la dette, une histoire française, ça paraît chez Flammarion. C'est assez formidable parce que vous vous intéressez aux racines culturelles de la dette française. Donc vous nous parlez certes d'économie, certes de finances, mais surtout vous nous expliquez comment les Français se sont habitués à s'endetter. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, on nous dit c'est mondial, l'endettement est mondial, tous les États y vont, tout le monde se drogue, et donc nous aussi. C'est pas tout à fait ce que vous racontez dans ce livre. Vous expliquez que depuis Colbert, la France s'est habituée à voir l'État encourager les Français à lui faire confiance pour s'endetter.
Oui, absolument. Donc là, dans le livre, je commence un peu plus tardivement. Je commence à la Première Guerre mondiale parce que voilà, j'ai pas le temps d'expliquer toute l'histoire de France. Mais effectivement, il y a des racines très très profondes et l'endettement a commencé à toucher les Français à partir de la Première Guerre mondiale, quand le bon du Trésor s'invite dans les foyers. Parce que les gouvernements, voyant la guerre longue et coûteuse, n'ont qu'une solution, c'est faire appel à l'emprunt et mobiliser l'épargne des Français, puisque la levée de l'impôt n'est pas si simple, et à l'époque, il n'y a pas encore d'impôt sur le revenu en France. Et donc, c'est un système qui va se développer en France, dans d'autres pays également, mais en France, ce qui est intéressant, c'est que ça va continuer après la guerre. Après la guerre, on va un peu systématiquement continuer à recourir à l'emprunt, au bon de la défense nationale. Après la Seconde Guerre mondiale, bon, avant, il y aura également le bon du Trésor pour financer la reconstruction et la modernisation. Donc, c'est effectivement, on habitue les Français à recourir à la dette. Alors, c'est en même temps un système assez positif à l'époque. Hein,
c'est très patriotique. Enfin, je veux dire, pendant la Première Guerre mondiale, vous expliquez que prêter son argent à l'État et donc endetter l'État est un acte patriotique. Et d'ailleurs, on se souvient dans nos livres d'histoire des affichettes qui étaient reproduites en facsimilé pour inciter les patriotes, les Français, à vider leur bas de laine.
Voilà, et ça a très très bien marché, parce qu'en plus, il y avait une grande propagande du ministère des Finances. Il y avait un réseau de distribution incroyable, depuis les guichets des banques, les guichets du Trésor public, les notaires, même les facteurs pouvaient distribuer des bons de la Défense nationale, c'était incroyable.
Et à un moment donné, ces bons permettaient de payer mieux que les billets.
Voilà, c'était une quasi-monnaie. Donc c'est vraiment rentré dans les habitudes des Français, et même chez les petits épargnants. Hein, c'était pas forcément les gros rentiers qui finançaient la guerre, c'était tout un chacun.
Alors il y a l'aspect militaire, Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire finalement il n'est pas illogique d'endetter l'État pour soutenir un effort de guerre, parce que c'est vital. Qu'est-ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale ?
Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est très intéressant, c'est que là, on ancre vraiment la dette publique comme un élément déterminant pour financer les interventions de l'État, qui sont très très importantes, puisqu'on est, c'est l'État keynésien et modernisateur qui reconstruit et modernise donc la France, et qui va développer toutes les infrastructures et financer la modernisation de la sidérurgie, les barrages hydrauliques et j'en passe. Et donc c'est considéré comme un mode de financement naturel de l'État. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un financement assez inflationniste, mais on ne le savait pas à l'époque, c'était assez caché. Il y avait très peu de débats démocratiques sur la question, et même le Parlement n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait.
Alors, on a creusé la dette, mais c'était pour la reconstruction. Ensuite, mondialisation, j'enjambe les chapitres de votre livre. Si on regarde les 30 dernières années, quel est le gouvernement qui a le moins endetté la France ?
Alors, je dirais que c'est le gouvernement Chirac. En 1986, c'est la courte parenthèse libérale française, avec Balladur aux manettes, qui vraiment a un vrai programme libéral et est élu sur un programme libéral. C'est ça qui est très nouveau et
ça fonctionne.
Ça fonctionne, mais ça ne dure que 18 mois. Puisqu'en fait, ils vont privatiser, ils vont réduire la dépense publique, supprimer l'impôt sur les grandes fortunes, et réduire la fiscalité des autres que les riches. Donc ça va vraiment être un vrai programme libéral, mais in fine...
Ça va pas durer.
Ça va pas durer.
Alors vous dites, il désendette, mais c'est un programme libéral. C'est-à-dire que se désendetter vous colle immédiatement l'étiquette de libéral, ce qui, de la part de la gauche, est quasiment un gros mot. Hein. Genre, on va désendetter la France, vous avez un programme libéral, pire, ultra-libéral, c'est vicieux.
Oui, alors c'est un vrai problème, c'est que dans la bataille sémantique, les mots de libéral, de rigueur, même il faut faire un peu de comptabilité, c'est quelque chose...
C'est péché.
C'est péché, absolument. Donc c'est là où c'est culturellement compliqué de lutter contre ce discours.
Alors on a entendu aussi ces dernières années des économistes, alors vous les appelez économistes atterrés ou économistes de gauche, distiller cette idée que la dette, le stock existe, le stock de dette, il est partout, il y a des États plus ou moins endettés, mais les dettes se comptent en milliards de milliards, et finalement on vit très bien avec.
Alors, c'est un discours effectivement qui s'est développé après la crise financière de 2007-2008 et après la crise des dettes souveraines, sur fond de discours anti-finance aussi. Donc c'était la dette, en fait, c'est pour enrichir les rentiers, les investisseurs, les banques, etc. Donc elle n'est pas légitime. Donc ça, c'est un discours qui a un peu fonctionné, mais qui me semble tout à fait en dehors des réalités, parce qu'en fait derrière la dette, il y a quand même une charge d'intérêt qui pèse. Alors on a eu 10 ans où il y a eu des taux d'intérêt nuls ou négatifs, mais ça a été 10 ans, c'est une parenthèse. Maintenant on est reparti dans des taux d'intérêt très importants. C'est le deuxième poste budgétaire de l'État, donc ça veut dire que ça serait une marge de manœuvre qu'on aurait si on avait un niveau de dette moins élevé. Donc là on paye l'héritage du passé.
Laure Kenwell-Corr, Le déni de la dette, une histoire française. Dernière question, vous concluez votre livre par un constat terrible. Les Français préfèrent laisser l'État s'endetter pour redistribuer tout de suite au nom de l'égalité sociale, quitte à fabriquer de l'iniquité sociale et générationnelle en endettant les générations qui vont suivre.
Que dire de plus ? C'est un... Voilà, j'espère que... Ce livre pourra ouvrir un débat vraiment démocratique sur le sujet, parce que on peut régler les questions. Il faut mettre les gens autour de la table et essayer d'avoir un consensus citoyen.
Le déni de la dette, signé Laure Kenwell-Corr, c'est paru chez Flammarion et c'est clair, pédagogique, documenté et limpide. Même si vous n'êtes pas spécialiste de l'économie, vous lirez ça avec beaucoup de plaisir et d'angoisse aussi. Merci, madame. À suivre l'historienne, après l'historienne, à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegnaud et l'esprit libre du lundi, le philosophe Luc Ferry, Radio Classique, il est 8h27.